C'est bon? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour écouter ce soir Ilsen Abboud, qui est historien, chargé de recherche au CNRS, membre du centre Georg Simmel à l'École des hautes études en sciences sociales donc à Paris. Je crois pouvoir dire qu'à l'origine, il ne se destinait pas à travailler sur les mondes tziganes, puisque sa thèse qu'il a menée à l'Institut universitaire européen de Florence, ou à Florence, explorait les pratiques d'identification des personnes à l'époque contemporaine. Mais ce faisant, et notamment en examinant les archives policières, il a rencontré la question de tziganes, devenant donc par la suite l'un des rares spécialistes de l'histoire des sociétés tziganes en Europe occidentale à l'époque contemporaine. Donc. Et donc il va nous donner ce soir un aperçu de ses recherches en s'attachant tout particulièrement à questionner la mobilité des communautés tziganes engagées, comme on va le voir, dans des déplacements de très longue distance, dans des circulations qui menaient loin de l'Europe, hors de l'Europe, sans pour autant être étrangère à l'histoire en mouvement des Européens, comme il s'agit de le comprendre à présent.
Merci, merci à nous. Donc merci à l'espace Mendès France de m'accueillir aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir bravé les intempéries et tous les hivers qui s'abattent sur nous. Je vais présenter aujourd'hui cette recherche en cours en essayant d'être le plus clair possible, le moins jargonnant et en présentant aussi des aspects qui sont le quotidien d'un petit groupe de spécialistes. Donc je suis content de pouvoir partager avec vous ces résultats, ces questions aussi, ces recherches dans les archives. Donc vous n'hésitez pas à m'interrompre, on est dans un petit comité, donc s'il y a des points qui ne sont pas clairs et si vous voulez des éclaircissements sur tel ou tel point que j'aborderai. Donc avant de me concentrer sur le cœur de ma communication, consacrée au déploiement de communautés roms ou tziganes dans l'Europe des années 1860 aux années 1930, il me paraît indispensable de situer la présence de cette population sur le continent européen, au milieu du XIXe siècle, donc au début de la période que je vais considérer aujourd'hui, et avant tout donc d'éclaircir quelques données. Alors tout d'abord, le terme générique de tzigane reste utilisé en français, à la différence des autres qualificatifs jugés péjoratifs, utilisés en allemand, Zigeuner, ou en italien, Zingari, ou en anglais, Gypsies. Alors, l'action de groupements associatifs ou militants en Europe et aux États-Unis a suscité l'adoption et la diffusion du terme « Rome », avec un ou deux R, selon les cas, défendu depuis la création en 1971 de l'Union Romanie Internationale, une ONG qui défend les droits de cette population. Dans les pays d'Europe de l'Est, cette appellation s'est affirmée d'autant plus facilement que les populations romanies appartiennent à ce groupe, les Roms, qui en quelque sorte fédèrent l'ensemble des communautés. Dans les autres pays où résident des groupes différents, ce terme générique rentre bien souvent en conflit avec les autres ethnonymes en usage et entraîne une superposition découle sur quelques confusions. Alors, les trois groupes majoritaires des mondes romanes, Sinti, des pays allemands, appelés Manouches en France, Manouches on devrait dire, les Gitans des pays ibériques et les Roms de l'Est de l'Europe, mais aussi du Moyen-Orient et du Caucase, ne se distinguent pas toujours aisément. Alors pour résoudre ces difficultés, les appellations aujourd'hui en allemand de Roma und Sinti, en anglais Roma und Sinti, se sont imposées, non sans soulever de nouvelles questions. Alors en français, les difficultés sont accentuées par la présence, cas unique en Europe, et presque dans le monde, avec l'Italie, mais de manière moins évidente, des trois communautés, donc Sinti, Gitan, Rome, et donc des appellations variées qui subsistent encore. Alors, c'est...
Moi, j'aurais une question. Rome, du coup, en période récente ou aussi ancienne au XIXe siècle, sur les trois groupes en France ?
Oui, il y a des présences roms anciennes aussi en France. Mais je vais en parler. Donc, ces difficultés de dénomination en France se sont aggravées d'autant plus par l'addition des appellations administratives. Alors, si le terme nomade issu de la loi de 1912 est désormais banni car il se rattache à une discrimination et aussi à l'histoire des camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, la catégorie des gens du voyage issus de la loi de 1969, qui réformait la loi de 1912, est devenue, malgré sa forme au mieux incongrue, une manière de désigner une population et, par extension, un moyen de se définir de manière légitime parmi ceux qui se dénomment eux-mêmes les voyageurs. Des appellations anciennes ont été aujourd'hui abandonnées, comme les noms d'Égyptiens et Bohémiens employés dans l'Ancien Régime, et comme le terme de Romanichel, plutôt péjoratif, qui appartient à la longue liste des qualificatifs employés en France au XIXe siècle, avec boumian, trimardeur, roulotier, etc. Le terme donc de tzigane reste employé plutôt par les historiens, il est vrai, car il n'est pas relié à des procédures infamantes ou des procédures discriminatoires ou génocidaires, et parce qu'il a été en quelque sorte ennobli par les savants et les militants aux origines de la revue Études Tziganes, créée en 1955, et par les animateurs du Centre de recherche Tziganes, qui a existé donc de 1979 au milieu des années 2000. Une seconde, je vais remettre les pages en place, car l'imprimante m'a joué des tours. Mais je pense que ça va. Bah. Alors, ce préalable et ces précisions terminologiques semblent indispensables pour plusieurs raisons. D'abord, elles permettent de rappeler dans le temps les difficultés à nommer une population caractérisée par sa diversité et par son éparpillement géographique. Et elles engagent aussi une autre série de distinctions qui permettront de préciser la situation et la condition de ces populations au milieu du XIXe siècle. Le détour par l'histoire médiévale et moderne insiste souvent sur une histoire qui serait marquée par le déplacement et la translation d'une population située dans un bassin unique de peuplement du delta du Danube à la Grèce vers l'Europe occidentale. Je m'arrête juste un instant donc pour vous, voilà, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire sur les différents groupes. Alors, même chez les spécialistes, il y a toujours des petits oublis. Donc là, par exemple, il n'y a pas de communautés en Finlande, alors qu'il y en a bien. Et sur cette autre carte, ici, alors, ici par contre, le calot est oublié. Hein. Il s'agit de deux cartes donc, qui montraient la division hein, des parlers romanesques. J'y reviendrai. Donc, pour revenir à ce schéma que tracent les historiens, on détermine à ce mouvement des 14e, 15e siècles, un autre mouvement qui succéderait près de 4 siècles plus tard, une seconde migration qui suivrait les mêmes chemins et poursuivrait sa route au-delà vers les Amériques. Alors, les travaux récents en histoire moderne invalident totalement ce découpage schématique entre ces deux migrations, donc première migration au 15e siècle, deuxième migration à partir du 19e siècle, et laisse apparaître un système bien plus complexe qui relègue l'idée d'un espace situé et unique d'origine qui sous-tend une homogénéité ethnique et culturelle, voire biologique, maintenue en exode depuis une Inde des temps millénaires, au rang de récit des origines totalement distinct de la vie des communautés installées dans l'espace méditerranéen et européen depuis le Moyen-Âge. Les observations des historiens recoupent d'ailleurs sur ce point les travaux des linguistes qui étudient la structure originale des parlers romanesques caractérisés par un apport néo-persan, qui était la langue administrative de l'espace d'influence persane dans la Méditerranée orientale depuis le IXe siècle, pour un tiers par un vocabulaire grec médiéval parfaitement homogène, correspondant à l'implantation dans les territoires sous influence byzantine, et pour un dernier tiers par les vocabulaires de toutes les autres langues européennes. Alors, pour simplifier, trois modèles différents peuvent être définis à la fin de l'époque moderne, donc au début de l'époque contemporaine qui va nous intéresser. Un premier modèle correspond à une intégration citadine qui constitue le modèle dominant en Italie et en Espagne notamment, comme le traduit encore aujourd'hui de nombreux exemples de noms de rues ou de places dans toutes les grandes villes côtières de ces deux pays, à Naples, en Sardaigne ou à Venise, les Zingari ou Ritanos méridionaux n'étaient ni des marginaux ni des nomades aux habits singuliers et aux coutumes étranges, mais bien une des composantes des sociétés urbaines, comme en témoigne d'ailleurs l'omniprésence des figures bohémiennes dans les spectacles de cour. La constitution de réseaux familiaux consolidée localement au fil des siècles, apparaît notamment à travers l'étude des registres paroissiaux, italiens comme espagnols, qui font apparaître les généalogies et l'assise territoriale propres à des familles dont les patronymes, je vous en donne quelques-uns, Malas, Sicas, Maldonado ou Bustamante, ont été conservés durablement jusqu'à aujourd'hui. Il faut noter aussi que ce modèle urbain n'est pas limité à la partie occidentale de la Méditerranée et se retrouve aussi dans l'Empire ottoman, notamment à Constantinople, où le quartier Rom de Souloukoulé était installé au pied des remparts byzantins. Il a été détruit il y a quelques années, du moins ses restes successifs. Dans les villes côtières et marchandes de l'Adriatique, sur les îles grecques de Corfou à Rhodes, ainsi que dans les villes installées sur les rives de la mer Noire, des communautés s'installent aussi durablement et participent à l'essor du commerce maritime. Alors, un autre modèle qui s'institue autour de 1500-1550 a été observé dans le duché de Piémont-Sardaigne, dans l'ensemble des royaumes de France, dans les Flandres, ainsi que dans les pays germaniques, ou dans le duché qui est resté en place pendant plusieurs siècles, qui reliait en fait la Lituanie à la Pologne, et qui était situé entre la Prusse et la Russie. Et dans ces territoires, ce modèle s'est développé. Il correspond à la formation de compagnies militaires, comme représenté dans les célèbres gravures de Jacques Callot, voilà, que j'aime toujours beaucoup montrer. Les bohémiens, où l'on voit des hommes en armes et coiffés à la manière de la noblesse militaire. Hein, ce sont des gravures qui datent donc du début du XVIIe siècle. Alors, ces compagnies accompagnaient les armées en campagne ou en stationnement et formaient, selon les cas, ce que l'on appelle la traîne des armées ou des bataillons d'appoint. Dans ces deux cas, les limites de l'intégration, dans le cas du modèle urbain ou du modèle des compagnies, les limites de l'intégration ne proviennent pas d'une hypothétique marginalité sociale, mais d'un côté, sur une appartenance à l'Église grecque des origines combattue par l'Église catholique, surtout après le Concile de Trente de 1563. Et d'un autre côté, le démantèlement des compagnies militaires, au moment où se réorganise finalement la noblesse en Europe occidentale, tente d'abattre la protection que les nobles accordaient aux capitaines de bohémiens, qui faisait partie de leur garde rapprochée, motif principal de la déclaration qui a été promulguée en France en 1682, sous Louis XIV, contre les bohémiens et ceux qui leur donnent retraite. Mais ce démantèlement ne se déroule pas sans peine et entraîne une reconfiguration profonde des mondes bohémiens jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc dans cette partie occidentale de l'Europe et sa partie, disons, nordique. Des groupes familiaux se réfugient alors dans des territoires ruraux, le plus souvent aux confins des royaumes, pour échapper aux poursuites, comme dans la forêt noire. Je cite cet exemple parce qu'un des premiers recensements policiers réalisés dans l'histoire à propos de bohémiens est réalisé dans la forêt noire et a été édité sous la forme d'un petit livre en 1785. Donc dans les territoires rhénans aussi, mais dans les contreforts des Pyrénées ou des Alpes, où s'installent des communautés tziganes, donc, qui sont encore présentes d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ce processus n'est que la première étape des reconfigurations successives des sociétés romanies en Europe, dont les conséquences sont perceptibles jusqu'au début du XXe siècle. Le statut des populations tziganes et l'adoption de mesures spécifiques ont pu jouer un rôle contraignant, naturellement, mais la transformation des pratiques du passage et de la circulation, l'évolution des métiers itinérants et des métiers du spectacle, tout autant que le déplacement des lignes des frontières et la reconfiguration des États en Europe, représentent des éléments essentiels dans l'adaptation des mondes tziganes à l'époque contemporaine. Par exemple, les caractéristiques culturelles des sociétés tziganes sont la cible d'une répression qui s'accentue en particulier au XVIIIe siècle dans le royaume d'Espagne. Un acharnement exercé par la monarchie catholique à l'encontre des gitanos est encouragé par le mouvement anti-tzigane des letrados universitaires humanistes qui construisent le schéma de la nation errante qui aura un grand succès dans d'autres pays, en lui déniant le droit de se considérer comme un peuple à part entière doté de coutumes, d'une langue authentique et de coutumes traditionnelles. Et donc en 1749, une rafle célèbre et bien étudiée par les historiens vise en Espagne l'ensemble des communautés citadines et villageoises, et les familles gitanes subissent une détention dans les arsenaux accompagnée d'une confiscation de leurs biens. Une amnistie est décidée en 1783, mais ne permet pas un retour à la prospérité et provoque un déclassement général. Ce contexte favorise le développement de nouvelles routes, et peut-être déjà vers les Amériques, mais surtout vers le nord de l'Europe, vers la France principalement, et accessoirement vers l'Italie, où des communautés gitanes s'inscrivent durablement dans le paysage social des campagnes et des villes. C'est là l'origine des communautés gitanes importantes du sud-ouest de la France, notamment de ces gitans qui vont s'intégrer à la bourgeoisie urbaine à Perpignan ou Montpellier. Je vais en reparler. Alors un troisième modèle composite, que je n'ai pas évoqué encore, demeure pourtant essentiel. Alors, il pourrait être défini comme un modèle d'implantation rurale et de diversification professionnelle, mais encore très peu d'études permettent d'en rendre compte pour la période située entre la fin de l'époque moderne et le premier 19e siècle. Il concerne principalement les provinces européennes de l'Empire ottoman, les royaumes d'Autriche et de Russie, après la disparition donc de l'Empire lituano-polonais. Dans ces territoires, où résident d'importantes communautés tziganes, les familles sont intégrées au régime seigneurial et travaillent la terre. Certains relèvent du servage, qui reste notamment en vigueur en Valachie et en Moldavie, ce sont les deux provinces historiques de la future Roumanie, jusqu'à la moitié du XIXe siècle. D'autres se spécialisent dans les métiers de l'artisanat et de la réparation. Une activité fondamentale concerne les métiers liés à l'entretien et au commerce des chevaux, spécialité qui se retrouve d'ailleurs aussi à l'ouest de l'Europe, chez un groupe qu'on appelle l'Ovara. La vente des chevaux conduit à une forte mobilité qui nécessite de relier entre eux les espaces d'approvisionnement et les espaces de la demande, trajectoire qui conduit par exemple à relier les steppes russes ou le Caucase aux routes occidentales. Je précise juste à ce titre qu'une communauté dépouille, donc au sud de l'Italie, a conservé cette pratique de la vente des chevaux jusqu'aux années 60-70, et c'était des gitans, des tziganes, donc zingari, mais en fait Rome, de l'Italie, qui étaient chargés de la vente des chevaux, et c'est à eux qu'on confiait la tâche de s'occuper des chevaux, et ils s'occupaient accessoirement des boucheries chevalines. Sans forcément en manger, en fait. Beaucoup de tziganes s'occupaient de boucheries chevalines, mais pour survivre. Donc, à côté du commerce des chevaux, l'entretien des montures, la tonte, élargie aux autres équidés, par ailleurs, et les activités de maréchal ferrant deviennent, dans un grand nombre de localités, donc de l'Est de l'Europe, je précise, la spécialité des tziganes. Les métiers de la métallurgie constituent un autre domaine très ancien d'activités spécialisées, est pratiqué par de nombreuses communautés, en particulier Rome, parfois reliées au travail du maréchal ferrant, mais pas systématiquement. Dans les Balkans, l'Empire ottoman et les principautés roumaines ou en Hongrie, le travail de la forge se pratique de manière mobile, à l'aide d'outils faciles à transporter, une enclume, un soufflet double, une paire de pinces, un étau, un marteau, une lime. Un groupe en particulier, les calderages, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, qui vient du roumain calderar, qui désigne les chaudrons, se spécialise dans ce travail de la chaudronnerie et l'étamage. Alors, ils gagnent leur vie en réparant les pièces de cuivre, casseroles et chaudrons, dans des usines, des hôpitaux, mais aussi des hôtels, des casernes, des cantines ou des fabriques alimentaires. D'un autre côté, la spécialisation dans les métiers artisanaux oriente certaines communautés vers les métiers du bois, de la corne et de l'osier, éléments fondamentaux du monde rural. Un groupe, les Turara, tire par exemple son nom de la confection des tamis. Les Linguara fabriquent des objets en bois, des assiettes ou des cuillères et toutes sortes d'objets du quotidien. La vannerie occupe aussi de nombreux artisans tziganes qui profitent de l'essor des chaises paillées à partir du XVIIIe siècle et qui se diffusent dans tout le monde rural et en particulier dans les églises. Dans le bassin du Danube, des groupes appelés Orari ou Zlatari sont orpailleurs et se spécialisent en lien avec les fabricants de tamis dans la recherche de l'or au bord des rivières. L'essor des bourgs et le développement des bassins proto-industriels, donc début du XIXe siècle, accélèrent le développement des premiers spectacles de masse et de nombreux tziganes s'affirment comme musiciens, danseurs, saltimbanques et un groupe particulier, ceux qu'on appelle les boyaches ou oursaris, se spécialisent comme montreurs d'ours. Il y avait encore des montreurs d'ours jusqu'aux années 60-70 en Europe ou en Turquie, et qui ont été bannis en fait, de l'espace public progressivement. Cette diversité traduit une adaptation avérée aux transformations générales des sociétés européennes dans leur dimension rurale et urbaine, comme en témoignent les tziganes qui se spécialisent dans les métiers forains et ambulants. Au cours du XIXe siècle, cette diversification des sociétés va s'accentuer. Alors, si la constitution des États sur la base du principe des nationalités modifie la typologie des communautés romanies, elle entraîne la formation de plusieurs modèles territoriaux inclus à l'intérieur des espaces nationaux, mais aussi qui les dépassent ou les traversent. Les recensements nationaux ou spécifiques contribuent ainsi à une forme de définition à la fois ethnique et nationale, comme en Serbie ou en Transylvanie. On assiste donc à une qualification de communauté sous l'effet de recomposition nationale qui accentue artificiellement la séparation entre les dits sédentaires et les dits nomades ou itinérants. Ces nouvelles formes d'assignation identitaire, caractéristiques de l'époque contemporaine, s'accélèrent ensuite avec le renforcement des États-nations, puis avec le démantèlement des empires centraux et de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale. Sous l'effet de ces changements majeurs, suscité par une nouvelle administration territoriale des populations, la position des tziganes se transforme progressivement en une question d'ordre politique. À partir de la moitié du XIXe siècle, la répartition des sociétés romanies subit la transformation des cadres économiques et le développement de l'économie agraire, alors que les liens entre le plat pays et les villes évoluent, en favorisant notamment l'insertion régionale et la spécialisation socio-économique dont on vient de parler. Certaines communautés se redéfinissent ainsi à l'intérieur de territoires, de mobilité et d'échanges extrêmement délimités. Si l'on prend par exemple le cas de la France du Sud, plusieurs ensembles coexistent qui n'ont pas nécessairement de relations entre eux. Les Manouches d'Auvergne, les Gitans catalans urbanisés de Toulouse, Perpignan et Marseille, les Boumians provençaux, les Sinti d'origine piémontaise, qui migrent d'ailleurs vers la France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est ceux qui sont à l'origine des grandes compagnies circassiennes en France, comme Bouglione, Zavatta, etc. Donc ces Sinti d'origine piémontaise, mais aussi alsaciennes, ou des pays de la Loire installés dans le sud-ouest, donc tous ces groupes deviennent parfois invisibles, ou comme les membres de la bourgeoisie urbaine des marchands de chevaux de Montpellier, ou s'inscrivent dans un territoire extrêmement et clairement délimité. Profitant des nouvelles respirations offertes par la révolution industrielle et l'amplification des circuits économiques par la route, les fleuves ou la mer, des groupes familiaux s'arriment à ces nouvelles lignes et multiplient les occasions du voyage au long cours, au contraire des communautés dont je viens de parler. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les mobilités observées à l'échelle de plusieurs générations se concentrent en un seul parcours de vie et les tracés s'amplifient, prenant une dimension continentale et parfois même transcontinentale. La chance d'une émigration vers les Amériques, que de nombreux tziganes saisissent, comme l'étudie une collègue, Adèle Sutre, suscite un mouvement aspirant et accroît la recherche de stratégies qui favorisent un enrichissement collectif, des dynamiques relationnelles et l'établissement de réseaux remarquables de communication. Dès les années 1860, l'opinion européenne se passionne pour le récit des pérégrinations de ces tziganes qu'on appelle orientaux, considérés comme exotiques, comme les Roms Calderages ou l'Ovara, qui parcourent l'Empire des Habsbourg, la Pologne, les pays scandinaves et l'Empire russe, et que l'on retrouve des rives de la mer Noire aux îles britanniques. Alors que ces voyages témoignent d'une adaptation remarquable aux nouvelles circulations internationales, elles vont contribuer aussi, je ne m'attarderai pas sur cet aspect, à renforcer l'image d'un peuple de la frontière instable et ingouvernable. L'apparition d'une circulation transcontinentale ou transméditerranéenne qui met en relation des espaces très éloignés les uns des autres semble remonter aux années 1850-1860, même s'il est difficile de déterminer avec précision l'origine et les conditions dans lesquelles ces circulations se développent. Pour saisir la nature de ces circulations qui mettent en relation des groupes familiaux élargis, les uns avec les autres, il est important de rappeler que l'histoire des formations modernes dont j'ai parlé au fil des siècles s'est appuyée sur l'établissement de réseaux élargis de sociabilité, favorisés en particulier par la maîtrise d'une langue commune et le partage de traditions équivalentes d'une partie à l'autre de l'Europe. Des territoires de l'Empire ottoman à l'Empire russe, des empires d'Europe centrale et orientale, aux espaces balkaniques et jusque dans les mondes scandinaves et dans les îles britanniques, des relations subsistent, se maintiennent, quand d'autres, il est vrai, s'effilochent et disparaissent. Pour donner un exemple évocateur, choisi par une infinité de cas possibles disponibles dans les archives, je citerai simplement le travail de Johan Miskow, un folkloriste et anthropologue danois qui publie en 1924 un court texte à propos des tziganes étrangers au Danemark. Et il y est question de plusieurs familles installées au Danemark ou en transit vers la Suède, dont certains membres sont nés en France, en Alsace, d'autres en Norvège, en Allemagne, en Bavière, à Schönberg, en Saxe, à Halle, ou en Thuringe, mais aussi en Italie et en Albanie. Cet exemple n'illustre cependant qu'un aspect d'un système extrêmement complexe et divers qui relie le Caucase à Liverpool et la Norvège à l'Espagne. Alors pour rendre compte de certains aspects concrets de l'histoire des communautés de tziganes en mouvement, je voudrais m'attacher maintenant à présenter le cas particulier des mobilités d'un groupe de tziganes issus de l'Europe orientale qui parcourt l'Europe occidentale des années 1890 aux années 20 et 30. Les enjeux de cette recherche se situent à plusieurs niveaux. Le premier étant la compréhension des savoirs constitués entre la seconde moitié du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres. Saisir la formation et l'évolution de ces savoirs à propos des tziganes n'est pas seulement une question de méthode qui précéderait une analyse croisée des sources nouvelles, même si elle rend possible aussi l'ouverture de dossiers originaux et l'étude de cas inexplorés jusqu'alors. Prendre la mesure des différentes couches de savoirs constituées autour de ces populations à travers les discours savants, les discours de la presse ou les témoignages privés des observateurs est un préalable indispensable pour distinguer le poids des constructions mythologiques et des figurations stéréotypées des réalités sociales vécues par les communautés. Étant donné l'absence quasi totale des écrits de soi ou des récits produits par les acteurs eux-mêmes, il est en effet indispensable de recourir à une étude précise des travaux réalisés autour des mondes tziganes et de saisir comment des sources secondaires peuvent être analysées comme des sources primaires susceptibles de renseigner l'histoire même des communautés. Alors, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle les Tchoron. Donc, c'est un nom sur lequel je reviendrai, puisqu'il pose des questions elles-mêmes assez intéressantes. Alors, ça sera écrit plus tard, mais ça s'écrit T-C-H-O-R-O-N. Mais il y a de multiples graphies possibles avec des C, I, U, des T, S, C, H, etc. Ça dépend en fait des langues dans lesquelles ce nom est utilisé, ce patronyme revient. Alors, notre étude, parce que je mène cette étude avec Adèle, dont j'ai parlé, alors cette étude nous a permis d'identifier des dizaines de localités où cette famille se trouve à un moment donné ou un autre entre les années 1900 et la fin des années 20. Donc, ici, vous le voyez, sur les rives de la mer Noire, dans le Caucase, au port de Batoum, à Constantinople, en Italie du Sud, à Bari, mais aussi dans la région de Modène, puis à Milan. Milan n'apparaît pas là. À Marseille, à Angers, à Rennes, autour de Paris. On les retrouve aussi en Belgique, à Bruxelles. On sait qu'ils se retrouvent aussi à Berlin. Certains sont nés en Galicie orientale, donc c'est cette espèce de province située entre la Pologne et la Hongrie. Et on les trouve en Angleterre, au Royaume-Uni, d'abord à Londres, puis à Glasgow aussi, et surtout, j'en parlerai, à Liverpool. Alors, tout au long de leur parcours, ils sont suivis, on retrouve de multiples informations à leur sujet. Alors, je voudrais vous citer quelques témoignages tout à fait évocateurs de ce parcours. Alors là, c'est un récit de Guido Malagola dans une revue qui est liée au grand quotidien Corriere della Sera italien. Et voilà ce qu'il raconte. Un voyage de tziganes ou avec des tziganes, ce n'est pas une chose qui arrive tous les jours. Comme cela m'est arrivé récemment, voyageant le long des côtes de l'Istrie et de la Croatie à bord du navire Drava. Au premier abord, ils me regardèrent avec un air de curiosité et de défiance. Mais bientôt, je me suis rapproché d'eux amicalement en leur donnant des cigares et des amandes grillées. Mais lorsqu'ils s'aperçurent que je tenais à la main un petit Kodak et que je tentais de prendre d'eux quelques photographies, ils se séparèrent de moi, me tournant le dos, riant entre eux et échangeant des paroles incompréhensibles. Je compris alors qu'ils voulaient un peu d'argent. Avec quelques pièces, je parvins à les contenter. Ainsi, je peux vous les montrer à la proue du vapeur, entre leurs nombreuses balles de chiffon, allongés, accroupis ou assis sur de grands coussins de plumes qui leur servent de lit sous les tentes. De loin, cette compagnie de tziganes pourrait être confondue avec un amas de chiffons rouges. Les vestes et les vêtements des femmes, les amples chemises des hommes, les petites chemisettes des enfants, les couvertures des balles et les sacs de coussins qui sont tous faits d'une étoffe de ce tissu rouge à dessins jaunes et bleus. Alors ici, un autre témoignage visuel, pour le coup, et qui évoque en fait le soupçon qui va peser sur certaines familles, et notamment les Tchoron, qui arrivent en Italie en 1906, mais aussi en 1910, au moment où se déclenche une épidémie de choléra en Italie, qui va d'ailleurs toucher Naples. Il y a eu une étude là-dessus. Et donc on les retrouve ici, sur la Spiaggia di Colonna, donc c'est à côté, au nord de Bari. Et le journal rapporte les tentatives faites pour encadrer la venue de ces étrangers douteux. Ici encore, un extrait du bulletin de la Société dauphinoise d'ethnologie et d'anthropologie et son auteur, Arthur Bordier, qui était un membre influent de la Société d'anthropologie de Paris et un des membres de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle, fait paraître un article. Alors il décrit par ces mots l'arrivée à Grenoble des Tchoron. Il se trouve en ce moment à Grenoble une bande de nomades campés aux portes de la ville sous des tentes bariolées, couchées sur des tentures aux couleurs crues. Les hommes sont vêtus de vestons soutachés, de broderies voyantes, auxquelles pendent d'énormes boutons d'argent de la forme et de la grosseur d'un œuf de poule. Ils sont chaussés de grandes bottes de cuir, ils sont bruns, de longs cheveux frisés tombent sur leurs épaules. Leurs barbes frisées laissent apercevoir des dents fort blanches. Les femmes, drapées dans des haillons multicolores, reproduisent sans y songer les poses esthétiques de la statuaire antique. Leurs yeux noirs sont grands et fendus en amande. Leurs cheveux attachés en deux longues tresses, le long desquelles sont suspendues des médailles d'or. Des colliers de filigranes d'argent et de larges pièces d'or de 100 francs, des bagues complètent leur ajustement, qui ne manquent ni de goût, ni d'élégance, mais seulement de propreté. Des enfants diminués et plus malpropres encore que leurs parents gambadent en fumant des cigarettes et en dévisageant effrontément le visiteur, à qui ils demandent l'aumône. Comme les disent en outre la bonne aventure et le caresse de leurs beaux yeux veloutés. Les hommes plus silencieux, plus réservés, causent peu et martèlent bruyamment le fond des chaudrons de cuivre qu'ils ont pour métier de raccommoder. Ce sont des calderari. La plus grande discipline règne dans le campement qui obéit scrupuleusement aux ordres d'un jeune chef dont l'habit porte des boutons ciselés et dont la jeune femme est drapée dans des habits plus élégants que ses compagnes. Voilà, c'est très intéressant ce texte, d'autant plus que on a des images qui ont été prises au même moment, et ici qui paraissent dans le bulletin de la Société Lorraine de photographie. Et surtout cette série remarquable qui est conservée au musée dauphinois, prise par un photographe local, Hippolyte Muller, et qui photographie dans le détail, et c'est très intéressant de le noter, la position des tentes les unes par rapport aux autres, l'intérieur d'une tente, où l'on voit que le samovar tient une place centrale. Ici encore, il illustre le travail des chaudrons. Alors, ces chaudrons-là ne sont pas les chaudrons que ces personnes transportent avec elles. Ce sont des chaudrons en réparation. J'y reviendrai. Ici, le travail même détaillé du chaudronnier est montré. Hein, on voit que son outillage est celui d'un marteau et d'un pieu planté dans le sol sur lequel est posé le chaudron à l'envers. Alors ici, ces séries de cartes postales sont prises à côté de Nancy, et des témoignages rapportent également de manière très précise comment les Tziganes, et on le voit à travers les témoignages que je vous ai lus, négocient la venue des visiteurs dans le campement, au point même d'en organiser des visites rémunérées, bien sûr. Des reportages filmés s'attardent aussi sur ces compagnies. Comme ici, un documentaire pâté réalisé sans doute dans la région parisienne.
C'est la famille de Joran, toujours.
Oui. J'insiste sur les boutons que vous voyez, les fameux boutons en argent. Il n'y a pas la musique, malheureusement. Le samovar. Là, c'est le service du thé. Toute la scène est un peu surjouée, vous vous en rendez compte. Alors, d'autres documents très intéressants à ce sujet nous renseignent aussi sur les doutes qui pèsent sur leur origine. Là, par exemple, une carte postale du campement à Sceaux évoque des chaudronniers du Caucase. Tandis qu'ici, lors de leur passage en Suisse, à Lausanne, il est question de chaudronniers polonais. À Angers, on évoque le camp des Hongrois. À Choisy-le-Roi, on évoque des nomades, comme on en voit peu. Et à Rennes, on évoque des nomades autrichiens. Et d'ailleurs, l'article qui accompagne ces images à gauche est très intéressant. Le spectacle de ce campement en plein air est particulièrement intéressant et peu banal. 5 tentes sont dressées là, au milieu d'une prairie qui appartient à un perron couvreur et que bordent d'élégantes villas. Ces 5 tentes abritent autant de familles, comme on peut s'en rendre compte par les photographies que nous donnons. Ces nomades ont conservé très pur le type de la race. Les femmes sont vêtues d'étoffes à ramages et coiffées de mouchoirs, de soie, de couleurs éclatantes, et tous ces gens, au teint bronzé, sont parés de bijoux de valeur. Les femmes ont dans leurs cheveux des chapelets de louis d'or qui leur tombent sur les épaules. Elles portent au doigt des bagues de prix. Quant aux hommes, ils sont également porteurs de bagues en or, et leurs cannes sont ornées de hautes poignées d'argent. Ces nomades, qui sont originaires de la ville de Bresco, ne ressemblent pas aux autres nomades qui, eux, ne vivent que de rapines. Ils demandent leur subsistance à des travaux artistiques sur cuivre, dans lesquels ils sont, paraît-il, très adroits. Ils réclament également les récipients en cuivre. Alors, un point essentiel de cette étude concerne le séjour des familles de Sharon à Liverpool. Alors, en effet, l'arrivée de plusieurs familles portant ce patronyme à Liverpool en 1911, donc, suscite une production documentaire qui est essentielle et qui permet de remonter le temps et de saisir les dynamiques familiales et économiques, ainsi que les logiques de circulation d'un groupe emblématique à la fois singulier et comparable à d'autres cas observés à la même époque. Le patronyme Sharon, et je vais insister un peu là-dessus, s'offre comme point de repère de cette circulation et les très nombreuses sources disponibles permettent de repérer son usage. Il est donné par les membres du groupe et, les chefs de famille, aux personnes qu'ils rencontrent, aux observateurs, comme aux autorités officielles, même si de multiples doutes subsistent sur la nature et les usages de ce patronyme. L'orthographe varie selon les lieux et les langues majoritaires en usage, et de multiples formes graphiques apparaissent dans la documentation, avec des accents, avec des I, des H, TS, TCH, TSCH. Dans une courte note introductive qui paraît en 1888 dans un des premiers numéros de la Gypsy Law Society, donc une société d'érudits travaillant sur les questions des tziganes, la source d'un conte publié sous le titre donc le récit d'un frère turbulent est indiqué de la manière suivante. Ce conte a été dicté à M. Copernicky par un très intelligent tzigane appelé John Choron. Prononcer Choron, c'est-à-dire tzigane, pauvre ou voleur, dans la prison de Cracovie. La traduction française de l'ensemble des contes recueillis par ce Copernicky en question est publiée sous la forme de deux fascicules qui sont accessibles aujourd'hui et qui ont été publiés dans l'entre-deux-guerres. Cette édition mentionne aussi Jan Choron comme principale source et rappelle également son emprisonnement à Cracovie. L'une des animatrices de la Gypsy Law Society, Dora Yates, indique par ailleurs que Jan Choron était bien un parent éloigné des familles qui se rendent à Liverpool. Donc rien n'est moins sûr que cette traduction du patronyme Choron en voleur ou pauvre, même si des recherches rapides dans des vocabulaires anciens corroborent à peu près cette hypothèse. On retrouve également d'autres hypothèses concernant l'origine de ce nom qui se rapprocheraient de la spécialisation professionnelle du groupe liée au travail des chaudrons. Alors, l'élément le plus tangible reste l'usage généralisé et durable de ce patronyme pour désigner les membres de plusieurs familles auxquelles sont associées d'autres familles reconnues comme les Demeter, les Maximov ou les Kudakov qui croisent la route des familles de Sharon. Un autre savant, Winstedt, relève par ailleurs que les membres de ces mêmes familles utilisent le nom de Maxime ou Maximov. Une ambiguïté profonde demeure sur le statut de ce nom dans ce qu'on appelle le régime du romanolap. Dans la culture romanesque, il y a une pratique du double nom, le nom utilisé à l'intérieur de la communauté et un nom que l'on choisit en dehors de la communauté. Le nom porté par les personnes au sein de la communauté est un nom presque sacré, unique. Il ne peut plus être réutilisé après la mort du défunt. Et il fait usage du parler romanesque. L'autre nom, qui est destiné à la société extérieure des Gadget, est un nom dont on peut modifier l'écriture, que l'on peut inverser avec le prénom. Il y a une espèce de souplesse dans les usages du nom extérieur. Donc il y a une sorte de jeu de ces noms. Et précisément, les observateurs qui vont recueillir les témoignages des Sharon perdent leur latin face à certains épisodes. Par exemple, un récit évoque, lors de la cérémonie de baptême d'un enfant, la confusion provoquée par le dédoublement du nom. Alors, en effet, donc, le parrain, qui est un de ses savants, donc Scott McFay, commence à épeler le nom du père, Vorshaw, au prêtre, avant d'être brusquement interrompu. Vorshaw présente alors des documents officiels et des passeports dans lesquels il n'apparaît pas du tout comme Vorshaw Choron, mais comme Garaz Fanaz Tzigano. Si Le patronyme Choron paraît donc être un nom générique mobilisé lors de la présentation du groupe. Cet exemple montre que cela n'est pas le cas systématiquement. Le même groupe Choron se fait appeler, en Italie en particulier, comme venant de Corfou. Pour vous montrer à quel point la souplesse des usages du nom est grande chez ces groupes. Alors, il faut sans doute se résoudre à imaginer de multiples origines croisées, une évolution des usages, la malléabilité d'un patronyme qui peut évoluer considérablement, même dans les registres de baptême ou de l'état civil, dans les pays où ils existent au début du XXe siècle, c'est-à-dire très peu. Malléabilité et glissement, donc, parfois imperceptibles d'une génération à l'autre, comme cela est le cas pour de nombreux patronymes. Alors, cette question du nom est essentielle. Elle apparaît pour affirmer une identité et présenter des documents valides qui garantissent le passage et les transactions, mais elle sert aussi à brouiller les pistes et à marquer une frontière invisible entre le monde familial romanesque et le monde des gadgets. Ces stratégies se retrouvent dans la documentation et jouent un rôle clé dans les opérations de négociation, mais aussi dans les manières d'affirmer sa position en situation de passage, notamment de frontière, ou au contraire dans la recherche d'une invisibilité pour disparaître ou se confondre avec d'autres groupes ou d'autres entités ethniques, si on peut dire. Par exemple, le contraste entre la période d'hypervisibilité où le nom de Choron est invoqué dans les années 1900 contraste avec la période de l'entre-deux-guerres durant laquelle les traces de ce groupe sont beaucoup plus disparates. Un autre système nominal est employé par les membres de ce groupe et consiste à mettre en avant sa spécialisation professionnelle. Dans le monde anglo-saxon, le qualificatif de coppersmith, qui veut dire donc chaudronnier, en fait, travaillant le métal, est parfois complété par l'indication d'une origine géographique. Donc, ils sont nommés Hungarian ou Galician coppersmith le plus souvent dans les articles de presse. Souvent, eux-mêmes disent « je suis coppersmith ». Et ce terme est employé comme leur patronyme. C'est le cas également en France ou en Italie lors de leur passage, lorsqu'ils se présentent comme chaudronnier ou calderari en Italie, qui devient aussi leur nom de temps en temps. Alors, est-ce une manière d'affirmer une profession destinée à devenir lucrative selon les points d'arrivée, de jouer la carte d'un exotisme assumé lorsqu'on présente une origine lointaine, caucasienne ou hongroise, qui a pu s'avérer chargé de susciter la curiosité et d'attirer de nouveaux clients, ou bien de masquer délibérément une appartenance qui a pu s'avérer problématique en d'autres occasions, l'appartenance zigane. Est-ce que ces trois raisons sont mobilisées avec méthode ou bien sont-elles employées dans le désordre et selon les circonstances? Rien n'est moins sûr. L'arrivée de ce groupe en 1911 succède à d'autres passages de groupes calderaches, notamment celui que l'on a dénommé Greek Gypsies au milieu des années 1880. Mais l'arrivée en 1911 est remarquable à plus d'un titre. Alors, en effet, la documentation constituée autour de et à la suite de ce séjour en Angleterre des familles Choron interroge. Et en effet, les archives de la presse conservées dans les volumes reliés de la société Gypsy Law Society rassemblent des centaines d'articles, du plus long reportage en pleine page à l'entrefilet. Et la présence de ces familles, désignées bien souvent comme les Galician Gypsies, apparaît dans d'innombrables articles de la presse, mais aussi dans quantité de travaux scientifiques édités à leur sujet. Alors, il faut préciser juste une chose. La Société d'études Zigane, donc la Gypsy Law Society, qui avait été créée en 1888 en Écosse, à Glasgow, est reprise en main par son directeur en 1907, donc 4 ans avant cette arrivée. Donc, il s'appelle Robert Andrew Scott McFay et il se spécialise dans l'étude des Tziganes. Et il reprend en main cette société en relançant la revue et en entamant la constitution d'un réseau international de savoir. J'ai pu consulter ses correspondances qui sont mondiales. Il écrit à environ 50 correspondants chaque jour, en gardant ses lettres d'ailleurs, ce qui constitue une base de données prodigieuse pour comprendre comment s'élaborent les savoirs au sujet des Tziganes. Et au moment où il développe cette société, quelques années après, arrive ce groupe qui n'était pas du tout destiné à rencontrer les membres de la Gypsy Law Society. Ce n'était pas du tout leur but. Ils voulaient se rendre en Amérique. Mais cette coïncidence va avoir des effets, en fait, cognitifs, si je peux dire, extraordinaires. L'influence est telle que plusieurs dizaines d'années après les faits, certains membres rappellent les conditions dans lesquelles cette rencontre a eu lieu et comment elle a pris une certaine importance dans la production des savoirs au sujet des tziganes. Pas seulement des tchorones ou des calderages, mais des tziganes en général. Par exemple, 40 ans après les faits, donc dans les années 50, celle qui est devenue, à la suite de Robert Andrew Scott McFay, la directrice de la Gypsy Law Society, Dora Yates, se souvient avec précision du jour et de l'heure de sa première rencontre, lorsqu'elle fut réveillée le 29 mai 1911 par la police, qui cherchait l'aide d'une interprète. Il faut préciser que tous les membres de cette société parlent romanès. Alors, voilà comment elle raconte cette arrivée. Dans un chapitre entier consacré au passage des Tchorones à Liverpool dans son livre autobiographique qui s'appelle « My Gypsy Days ». Alors, elle raconte que ces personnes, ce groupe d'une quarantaine de personnes arrivées par train de Londres, de la gare Victoria, comme cette coupure de presse le montre. Voici les Tchorones à Liverpool. Alors, ils s'installent initialement non loin de la gare centrale de Liverpool, sur un terrain abandonné. Et au soir de la première journée, ils se rendent à Birkenhead par bateau. C'est de l'autre côté du Channel, du Mersey. Ils sont alors dans l'attente du reste de leurs bagages, qui doivent venir de Londres, et sont à la recherche d'un campement vaste où ils souhaitent s'installer, apparemment de manière durable. Lors de cette première journée, le collègue de Dora Yates, McFay, note dans son livre qu'ils bénéficièrent dès leur arrivée de la protection d'un agent de police censé prévenir les attentions inhospitalières des voisins du lieu. En quelques heures, ils avaient anticipé leur arrivée. Celui-ci indique sobrement qu'ils furent considérés à la fois comme « foreign » and « oriental ». Et des marques d'hostilité sont aussi évoquées par Dora Yates, d'où l'importance de l'agent pour les protéger. Après une première tentative de déménagement vers des maisons qu'ils envisageaient de louer, non loin de la cathédrale, ils renoncent finalement et se rendent vers les quais lors d'une procession décrite en détail, composée du groupe au complet, suivi de deux chariots ouverts, remplis des édredons formant de hautes piles au sommet desquelles se tenaient des hommes aux longues barbes, portant de longs fouets aux manches d'argent. Ils se destinent alors à traverser le pont vers l'autre rive pour rejoindre Birkenhead, la commune située de l'autre côté du large bras de la rivière Mersey, qui se jette dans la mer. Donc le jour même où ils arrivent à Liverpool, en fait, ils prennent un moyen de locomotion, ils se rendent au ferry, en quelque sorte, et ils traversent le Channel. Mais pourquoi ? Comment se fait-il qu'ils décident ce voyage ? Et en fait, ils se rendent, après la traversée, sur le campement des gypsies anglais, notamment des familles extrêmement connues en Angleterre, des Boswell et Robinson, qui sont installés à Birkenhead. Ce qui montre en réalité l'anticipation de ce séjour, la préparation et la reconnaissance des trajectoires suivies par le groupe. Alors, en décrivant les circonstances de cette arrivée, McFay explique que de nombreux témoins assistent à cette arrivée et que des échanges avec les autres habitants du campement ont immédiatement lieu. Et il conclut en ces termes son premier chapitre. Et donc, les tziganes anglais, les femmes tziganes anglaises sont tombées amoureuses du bébé de Vola, et tous les hommes tziganes anglais ont été impressionnés par la taille et l'habileté de Kola. Les fleuves d'or dont il se paraît ont touché leur cœur. Et ainsi, en un espace de temps extrêmement court, ces étrangers sont devenus complètement, enfin, ont été accueillis totalement. Alors, ils s'installent alors sur ce premier terrain, non loin des docks, à Green Lane. Quelques semaines plus tard, à la mi-mai, un deuxième groupe plus important rejoint le premier, et ils s'installent sur un plus grand terrain, non loin du grand parc de Birkenhead. Une forge à ciel ouvert est installée sur ce nouvel emplacement, et un loyer est payé mensuellement. Une plateforme surélevée est érigée à l'extrémité du terrain pour héberger le chef du groupe, Grandsa Tchoron, et sa famille. Des tentes séparées regroupent toutes les familles suivant deux allées principales de chaque côté d'un ensemble de baraques construites sur place. Durant cette période, des éclaireurs prospectent dans l'ensemble de la région à la recherche des fabriques, des ateliers et des cuisines surtout, qui produisent des biscuits, des confitures, du sucre et utilisent des chaudrons à réparer. Il est difficile de savoir si seul le hasard les a conduits vers Scott McFay, qui est donc secrétaire de la Gypsy Law Society, mais qui est également propriétaire d'une fabrique de sucre. Et celui-ci les met en contact avec ses connaissances et sa propre fabrique, non sans difficulté d'ailleurs, située dans un quartier du nord de Liverpool, et qui emploie leur service dans la réparation des grands chaudrons. Il y a un récit haut en couleur qui raconte le retour vers le campement où des membres de la famille Churon donc, portent à bout de bras des bassines de plus d'un mètre de diamètre, pesant près de 50 kilos. Et dans une expédition dangereuse, ils traversent les quartiers les plus populaires de la ville et tout au long du chemin, des garçons jettent des pierres sur les chaudrons sous lesquels le petit groupe s'abrite jusqu'au ferry pour retraverser le bras du fleuve. Alors, pour évoquer la vie quotidienne de ce groupe, je citerai les propos de Dora Yates qui raconte qu'elle a passé énormément de temps à écouter des chansons dont les paroles étaient répétées lentement et traduites par la plus jeune fille de Nicolas, Churon, en français afin de bien s'assurer du sens des mots. Doriette note aussi sa déception des qualités modestes de conteur observées auprès des Churon comparées aux contes qu'elle avait recueillis auprès des Tziganes du pays de Galles et ceux des Tziganes roumains qui avaient été compilés auparavant par d'autres. Et donc, Dora Yates et ses amis réclament avec tellement d'insistance de recueillir les chansons et les contes, parfois contre quelques pièces qu'on leur réclame, que cette pratique vient perturber l'équilibre du campement et ils sont tous deux convoqués devant le chef du groupe, Nicolas Churon, pour une audience particulière. Il est alors décidé que les chansons et contes ne pourront être demandés que le soir et que toute rétribution devra être remise directement à lui pour être ensuite redistribué de manière équitable à l'ensemble du groupe. Donc la pression savante et publique est telle qu'un semblant d'organisation doit prendre place pour gérer cette circulation. À la suite de cette audience, un grand dîner jugé particulièrement solennel est organisé et Dora Yates se souvient dans le détail de tous les plats, des nappes en lin, des samovars qui sifflaient, des gobelets en argent, de toutes les pâtisseries, des fruits et même des ananas, des pêches et des fraises que l'un des convives dégusta avec du poivre et du vinaigre. Alors, suivant le récit de Scott McFay, la maladie d'un des petits-enfants de Nicolas, le fils de Zaza et Adam Kirpatz, Churon, contribue à prolonger le stationnement à Liverpool. Mais en juillet 1911, les deux parents et leurs enfants se rendent apparemment en pèlerinage à Częstochowa, en Pologne donc, dont la basilique du monastère hébergeait une célèbre Madone Noire. Częstochowa est située à plus de 2000 km de Liverpool et ils font l'aller-retour. Et c'est dans ce temps d'attente que le reste de la famille stationne à Liverpool avant de décider une nouvelle pérégrination. Et là, on voit bien quelque chose de très important, c'est que toute itinérance est dominé par une connaissance à la fois profonde des réseaux de circulation, mais aussi des calendriers des pèlerinages. Et les moyens financiers ne leur manquent pas pour accomplir ces trajets. En août 1911, de nouvelles familles venues, apparemment elles aussi de Marseille, rejoignent le groupe et il semble que le campement tout entier soit démantelé et tous les membres du groupe se rendent à Londres où ils résident dans la partie sud de la ville à Mitcham. Presque une année s'écoule après leur première arrivée et au printemps 1912, une partie du groupe revient à Liverpool. Au moins quatre noyaux familiaux entreprennent alors un nouveau voyage pour rejoindre une autre famille, celle de Colas, déjà partie en Uruguay. Aucun bateau n'est alors disponible et ils sont contraints de rester un temps à Liverpool dans des chambres de location avant de repartir vers Douvres, d'où ils partiront vers Ellis Island. Suivant Winstead, un autre groupe qui porte les patronymes Maximoff dont je reparlerai, et Filipov parviennent en Angleterre en octobre 1913. Certaines familles s'aggroupent, disons, au premier, et les autres se séparent. Alors, oui. Ah oui, il est l'heure de s'arrêter, en fait. D'accord. Bon, je vais alors aller très vite et passer beaucoup de détails que je voulais vous évoquer donc, au sujet de la société des Tcheron, évoquer notamment l'ouvrage de Scott McFay sur cette famille, les travaux de généalogie qui sont accomplis, mais ce n'est pas très intéressant, et quand même très précis, et qui montre le soin avec lequel les savants de la Gypsy Law Society se penchent sur cette famille. Alors, ce qui était important dans la deuxième partie, et que je vais donc résumer en quelques mots, c'est l'art de la présentation de soi et cette négociation continuelle qui est à la fois une partie des modalités de présentation vers la société extérieure, mais aussi une activité totalement mercantile, en quelque sorte, puisque les visites vers le campement sont organisées, telles que je l'ai évoqué. Les images de soi sont monnayées. Et on voit ici, c'est très intéressant, des bourgeoises de Liverpool qui dessinent les enfants. Ici, on voit aussi plusieurs membres de la famille Tcheron qui posent dans des studios pour l'édition de cartes postales. Et des témoignages latéraux nous renseignent sur le fait que ces épisodes sont monnayés. On apprend aussi, en fait, que le groupe des Tcheron, spécialisé dans la chaudronnerie, est relié très intimement, puisqu'il s'agit de membres de la famille, à une autre branche de la famille Tcheron, qui exerce en fait comme comédien dans des foires internationales, comme à Berlin, ici, dans une exposition internationale, ou bien à Paris, au jardin d'acclimatation, où les Tcherkesques caucasiens s'exposent pendant quelques mois, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, en forme d'épilogue, je vais évoquer donc simplement le fait qu'on retrouve la famille Tcheron après la Première Guerre mondiale. On ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Une partie va aux États-Unis, une autre partie reste en France, revient vers la France. Mais on sait en tout cas que certains de ces membres se retrouvent dans la banlieue parisienne et exercent de manière répétée l'activité de chaudronnier, notamment à Billancourt, comme en témoigne cet article de la presse, cet article scientifique ici et un article de presse ici. À cette occasion, un petit film est tourné. Je vous le montre. Donc, qui est pris par un opérateur anglais, mais qui est rassemblé aujourd'hui dans les archives Pathé. Donc là, on est dans les années 20, dans la banlieue parisienne. Je pense que c'est le canton de Saint-Ouen. Donc, je précise que ces familles que vous voyez ici donc sont reliées à... des membres de leur famille situés aux États-Unis, au Canada, en Uruguay, à la même époque au Brésil, à la même époque en Espagne et en Allemagne.
Comme ils sont reliés, ils communiquent ?
Oui, bien sûr, ils communiquent. Il y a des correspondances et il y a des mariages, en fait, aussi, qui nous montrent les liens maintenus entre les familles. Ça dure quelques... Mais bon... Alors, regardez bien cette femme. Alors, on connaît bien cette femme. En fait, c'est la grand-mère de Matteo Maximoff. Peut-être vous avez entendu parler de Matteo Maximoff, qui est un écrivain, en fait, qui a écrit des livres en français, publiés notamment par Gallimard au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui va écrire une grande œuvre et qui va entreprendre dans les années 50-60 la première traduction de la Bible en romanesque. et il va devenir une figure importante des lettres. Donc c'est la même femme qu'on revoit ici, photographiée par Doineau dans le logement de Matteo Maximoff à Montreuil. Voilà, et c'était ma dernière phrase. Pour montrer comment l'inscription de ces familles se forme aussi au sein des pratiques culturelles des pays traversés. Et on a parfois oublié cet héritage très intéressant et important en France notamment. Voilà, je vous remercie de votre patience.
Merci beaucoup, Ilsen, pour cette présentation très, très érudite et je pense très nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Parce que voilà, tu fais l'éclairage sur un monde très peu connu encore pour disons, le grand public, les non-spécialistes. Et on peut mesurer à quel point c'est un monde complexe. Il faut connaître une multitude de langues pour l'aborder. Circuler à travers les dépôts d'archives, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que ça va du Caucase aux États-Unis en passant par.
Des archives savantes, des bibliothèques spécialisées.
Ce qu'il est nécessaire de faire pour suivre et retracer l'histoire d'une population. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié pour ma part, c'est que tu es donc replacé sur le temps long. Donc l'histoire de ces présences tziganes, tu l'as replacée dans une histoire longue de l'Europe, de ses sociétés urbaines, de ses sociétés rurales, quand tu nous expliquais les différents modèles. Et donc on voyait aussi toute une gamme d'activités allant de la guerre à l'artisanat, mais qui était, donc on a l'impression d'un monde à la fois très spécialisé, en même temps très banal, dans son inscription, avant d'être... d'incarner une figure complètement exotique, allant aussi bien du rejet à la fascination, en fait, ce qu'on sent. Et oui, donc voilà, c'était un des points sur lesquels je voulais insister, c'est un monde spécialisé, en même temps banal, avant de devenir autre chose dans le discours, aussi bien des journalistes, de tous ceux qui observent les circulations, leur arrivée fait à chaque fois... véritablement événement entre un registre de rejet associé à la maladie, au choléra et en même temps une fascination pour la grande richesse aussi des vêtements et quelque chose qui tourne autour du mystère que ces familles suscitent par leur circulation et leur réseau, leur double aussi système de nomination, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas accessible à l'observation, y compris peut-être à celle de l'historien. Oui. Il y a aussi un monde qui en partie se dérobe, j'imagine, et du coup, comment travailler ça, Mais on a 20 minutes pour élargir.
Bon, je vais juste... oui, il me paraissait vraiment important de replacer cette histoire dans un temps long parce que, en fait, c'est cet ancrage au sein même des sociétés européennes qui explique la capacité à se mouvoir et la grande capacité d'adaptation de ces sociétés aux différentes transformations contemporaines. Et donc, il faut avoir ça, je pense, en tête. L'autre question, je m'efforce d'évoquer une singularité ordinaire à propos des tziganes. C'est-à-dire, c'est complexe comme idée, mais ils sont à la fois particuliers, un mode de vie, une langue, et en même temps, leurs pratiques sont ordinaires. Leurs activités professionnelles, leur manière de se mouvoir, et l'exotisme en fait, que nous, on semble percevoir... Ce n'est que le reflet d'une quête d'exotisme des sociétés occidentales qui trouvent dans ces figures des modèles, idéaux, de projection d'un fantasme, en fait, qui est aussi lié à l'époque, donc de sociétés coloniales qui découvrent le Sud, l'Orient, etc. Donc le tzigane va acquérir une sorte de potentialités impressionnantes à incarner cet autre absolu. Et la combinaison avec les politiques essentialistes et spécifiques va mener à un déchirement, en fait, finalement, et à une séparation qui va s'exercer de plus en plus brutalement dans l'entre-deux-guerres des populations tziganes, pourtant associées étroitement, comme je l'ai rappelé, à l'histoire des sociétés européennes. J'ai entendu votre question. Que sont-ils devenus ?
Oui, c'est ça.
Oui. Alors, celles qui se sont déplacées vers les Amériques, le Canada ou l'Amérique du Nord, en fait, ont connu divers destins. Hein, mais aujourd'hui, les gypsies, donc américains, sont implantés sur la côte est, sur la côte ouest. Et on a des foyers. Alors Adèle, que je citais, a étudié, par exemple, l'existence dans les années 20 d'un quartier tzigane à New York, dans le Queens. Certains correspondent avec le président Roosevelt, un certain Fred Kosloff. Bon, des Calderaches, notamment, deviennent importants dans la société américaine. Et ils se spécialisent dans les métiers forains, hein, tout particulièrement. Et on le retrouve. C'est une part importante de la culture américaine. On ne le sait pas tellement, mais enfin, Stephen King a écrit un livre sur les tziganes. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais... remarquable. Bon. Voilà, alors pour ceux qui sont en Europe, les choses ne se passent pas de la même manière, puisque toute une série de dispositifs législatifs sont pris dans tous les pays d'Europe à partir des années 1900-1910 et conduisent à une identification des individus, des familles, et un enregistrement transgénérationnel qui fige les personnes et leurs descendants dans des statuts dont ils ne peuvent plus sortir. C'est le cas des nomades en France ou des Tziganes en Allemagne. Et le croisement avec les dispositifs d'une politique raciale vont conduire en Allemagne à un internement spécifique dès 1933.
Enfin, ce qui m'étonne, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la façon dont vous montrez que ces populations ont des métiers. Vous parlez des métiers. Et quand, enfin, c'est une question, c'est peut-être une remarque un peu naïve. Et quand on parle des migrants maintenant, on ne parle jamais de leur métier. Donc, on dit en effet que certains, pour justifier le fait qu'ils viennent chez nous, on dit, mais vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas dangereux parce qu'ils étaient ingénieurs dans leur pays, etc. Mais sinon, on parle pas de leur savoir-faire. Mmh. Et ça, c'est de voir ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire qu'ils sont intégrés en n'étant pas, enfin intégrés, enfin vus par la population. Ils intriguent. On va les dessiner. Bon, j'ai pensé au jardin d'acclimatation parce qu'en fait, on a organisé aussi des conférences sur ce sujet. Quand vous en avez parlé, je me suis douté, bien entendu, qu'ils s'exposaient au jardin contre, bien sûr, rétribution, hein, certainement. Mais bon, il y a quand même eu une rupture à un moment, justement, par rapport à la façon dont les migrants en général seulement sont considérés, non ?
Ben oui, enfin, là, c'est une vaste question, mais on a été contaminé en quelque sorte par une représentation d'une société dite d'accueil, agressée, violentée par l'arrivée de l'étranger. Et puis de l'autre côté, une vision comme ça, réifiée du migrant qui serait, uniquement voué à entreprendre la colonisation d'un pays à conquérir. Donc cette vision négative du migrant se perpétue jusqu'à aujourd'hui, en effet. Donc retrouver les logiques familiales, les trajectoires, les dynamiques aussi internes des migrations, d'aller de retour, de passage, de rupture ou de continuité, les logiques professionnelles, les implantations permettent de changer de perspective, évidemment. Mais c'est ce que font beaucoup d'historiens des déplacements et des circulations.
Oui, sont venus, qui sont venus ici, bien sûr.
Attendez, je vous passe le micro. Ah,
Si, c'est enregistré, c'est pour ça.
En fait, j'aurais voulu revenir sur la question des origines, parce que, en fait, moi, réellement, c'est vraiment la question qui m'interrogeait le plus, de savoir... les deux cartes que vous montriez montraient une espèce de... Si j'ai bien compris ce que vous disiez, une origine commune qui n'existe pas vraiment. Et donc, si cette origine commune n'existe pas, alors pourquoi est-ce qu'elle est fantasmée? Et est-ce que réellement, on peut essayer de... Comment dire, de retracer le, enfin, ouais, l'origine des Tziganes, quelque part. Ou juste c'est impossible et en fait c'est trop complexe et peut-être j'ai mal compris ce que vous disiez. Mais...
Non, mais bon, c'est une question récurrente qui revient sans cesse. D'où viennent-ils? Mais... Ouais. Donc il y a deux parties dans cette question. Il y a une partie peut-être qui répond à une interrogation. D'où viennent les peuples? Hein, d'où venons-nous? Donc, qui suppose de concevoir des trajectoires millénaires qui expliqueraient enfin notre origine à tous. Mais c'est une quête impossible parce que nos origines plongent dans la nuit des temps. Donc, bon. Après, de l'autre côté... Donc, sur la question des Tziganes, les travaux de linguistique ont montré, comme je l'ai expliqué, une base, de langue indo-européenne. Donc, comme toutes les langues européennes, alors peut-être il y a un fond qui a été analysé de sanskrit qui rattacherait le romanès au nord de l'Inde. Et qui expliquerait une migration, une transmigration à partir du 7e, 8e siècle. On ne sait pas très bien, mais...
C'est la langue qui permet de créer ce lien, finalement.
Oui, mais toutes les langues européennes ont un fond indo-européen. En fait, ce qui je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à se poser cette question.
Et, la carte qui montrait Moldavie... La deuxième carte que vous aviez montrée,
ouais.
Bon, ça c'est... Tout dans l'intro, vous nous disiez c'est erroné quelque part.
Oui, voilà, oui, mais puisque... Alors, non, c'est erroné parce que, en fait, elle présente une seconde migration comme si il n'y avait pas de communauté déjà implantée d'abord dans les territoires de l'Ouest, et comme si il y avait ce seul noyau, est-européen. Desquels partiraient les populations vers l'ouest. Alors que c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, les communautés russes sont installées bien avant le 19e siècle. En Scandinavie aussi, on a des traces de présence tzigane dès l'époque moderne, dès le 18e siècle. On sait qu'il y a des travailleurs tziganes qui travaillent dans les arsenaux de Helsinki. Bon, je vous donne cet exemple. Donc...
Cette carte n'est pas possible. Il n'est pas possible de la créer. On pourrait créer une carte qui montrerait les déplacements historiques, éventuellement l'existence de communautés, mais on ne peut pas vraiment savoir.
Il y a un déficit de connaissances sur ces questions. Et pour vous dire, enfin, un livre vient de sortir sur la présence des Tziganes dans l'empire polono-lituanien dont je vous parlais. C'est l'année dernière. C'est la première fois que quelqu'un s'intéresse à cette question et traite cette question de manière approfondie.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de documents sur lesquels s'appuyer.
Non, mais il y a des traces, je vous dis. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre de 400 pages sur la présence tzigane dans l'empire polono-lituanien entre le 15e et le 17e siècle.
C'est très récent.
Oui, mais les traces existent. Les travaux aussi existent pour l'époque moderne, pour tous les pays de la Méditerranée. Il y a deux thèses qui ont été soutenues sur l'Empire ottoman entre 15e et 18e siècle. Enfin, non, il y a beaucoup de matière, simplement. Le passage, du travail scientifique à la synthèse reste encore difficile. Et les synthèses, finalement, ressassent aussi beaucoup d'idées reçues et répètent beaucoup d'images et de simplifications.
C'est le problème que vous mentionniez au départ des sources secondaires, finalement. Moi, la question que je voulais poser, c'était peut-être plus pourquoi il n'y a pas plus de sources primaires, quelque part. Est-ce que la culture tzigane est vraiment...
Je vous dis, les thèses d'histoire moderne dont je parle s'appuient sur des sources primaires. Donc des recherches dans les archives, dans les registres paroissiaux, dans les documentations administratives, dans les fonds urbains, dans les gestions des terres. On connaît exactement le nombre de tziganes qui sont imposés par tête dans la province ottomane de la Roumélie au XVIIe siècle. Non, si on cherche, on trouve. C'est ça la question.
Mais si je comprends bien, en fait, ces communautés partent d'un même lieu et après, ils se dispatchent partout. Mais il y a bien, si je regarde de chez moi, je l'interprète comme ça, je me trompe peut-être. Ils partent de cette partie bulgare.
Je vous ai montré ces cartes pour les critiquer. Maintenant, ne les retenez pas parce que...
Oui, mais là, d'après le schéma...
Voilà. Revenons là-dessus.
Voilà
la carte qui.
Ben, je suis d'accord, mais
retenir.
Le départ, non, je parle du départ.
Oui.
Le départ de cette communauté, elle parle bien d'un point. Bah, par exemple, il y a une question peut-être idiote, il y a des Chinois qui sont en Chine et puis qui partent à droite à gauche, il y a des Français qui partent à droite à gauche. Donc, si je comprends bien que cette communauté tzigane part d'un point qui se trouverait vers la Serbie actuelle. Et la Moldavie. Et après, ils se dispatchent à droite à gauche.
Non, ça, c'est pas possible.
Mais j'ai rien compris.
On peut pas dire ça. Alors, si vous voulez,
on a bien
les
compris.
Communautés tziganes se déploient dans l'Empire byzantin.
Ben, je suis d'accord.
Voilà. Dans l'Empire byzantin, dans ses grandes, dans ses dimensions les plus larges, et à l'écroulement de l'Empire byzantin, des groupes se déplacent vers l'ouest.
D'accord,
voilà.
Donc,
une grande partie de leur vocabulaire est grec. Hein, on dit latchodrome, ça veut dire bonne route. Dromos, dromos, c'est le mot grec utilisé encore aujourd'hui. Bon, voilà. Si vous voulez, après, il y a d'autres communautés qui viennent d'Asie mineure, du Caucase aussi, hein, d'accord, les Tchinganais, c'est... Est-ce qu'ils précèdent les tziganes de la Méditerranée orientale? Ce n'est pas sûr. Après, on parle là du Moyen-Âge. Hein, c'est-à-dire, c'est très loin. Ensuite, d'où viennent les Francs? D'où viennent les Goths? c'est pas très précis hein, non plus, l'histoire des populations... En fait, cette question des origines me paraît plus importante si on l'étudie du point de vue des constructions mythologiques que du point de vue de l'étude des populations, si vous voulez. Après, il y a des études d'anthropologie biologique aujourd'hui hein, qui détectent les marqueurs d'ADN et qui essayent de voir combien de pourcentage il y a.
Ce qui peut être très dangereux, d'ailleurs.
Aussi, oui, ça dépend de l'échantillon de base, de départ, enfin...
Toujours du coup un peu sur cette question qui est un peu secondaire pour vous, mais c'est vrai que pour nous qui est un peu difficile à imaginer. Donc par exemple entre, on va dire comme nous on dirait un manouche du nord de la France ou un gitan perpignanais qui vont avoir vraiment du coup deux langues différentes, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même des parcours réellement différents ou ce sont des familles qui se croisent et qui finalement prennent des dérivations récentes en fait?
Bah, ils appartiennent tous les deux au monde romanesque. Ils ont pu se croiser dans le passé. Leurs familles ont pu échanger, se croiser. Il y a pu y avoir des mariages.
Mais avec le temps, ils ont réussi à constituer des mondes, enfin, des espaces de vie séparés.
Mais oui, effectivement, il y a des rencontres improbables et complexes qui se déroulent entre des Roms et des Gitans. Par exemple, ce cas célèbre, puisqu'il a été étudié par l'anthropologue Patrick Williams, des pratiques matrimoniales extrêmement différentes entre les Roms et les Manouches. Donc là, il y a des pratiques, par exemple le prix de la mariée, cette histoire du mariage, c'est encore un autre problème. Se pratique chez les Roms, mais pas chez les Manouches de la même manière. Donc, voilà.
Oui, s'il vous plaît, j'ai juste une question toute simple. Mais avant, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Moi, il me semble que la migration, c'est plutôt orientée vers des lieux de chrétienté.
Très ?
Des lieux de chrétienté. On a le sentiment qu'ils sont allés en Occident parce que la chrétienté est particulièrement présente. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais j'ai ce sentiment. Oui, ma question est toute simple. Il y a deux orthographes pour le mot zigane. Oui. Je l'ai vu à plusieurs reprises et je l'ai déjà vu dans la bibliographie. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que c'est un... les deux écritures sont acceptées et conformes.
D'accord. Alors, pour vous répondre, on trouve des communautés musulmanes, zéganes, qui sont issues de l'Empire ottoman. Donc, le quartier de Sulukule dont je parlais est peuplé de Tchinganais musulmans, qui parlent le romanesque, mais qui sont musulmans. On en trouve aussi en Bulgarie, même en Roumanie et en Albanie. Pour ce qui est du territoire européen et dans le Caucase, ils sont musulmans. Ensuite, il est vrai que le monde zigane d'aujourd'hui a été emporté, disons, par une vague d'évangélisation et tourné vers des religions comme le pentecôtisme. Voilà. Il y a eu un petit livre sur des ziganes juifs. Ensuite, en France, on a utilisé pendant longtemps la double graphie avec un Z et un S. Alors, il y a des débats là-dessus, mais le Z a été considéré comme péjoratif, donc on ne l'utilise pas. Voilà. Mais
merci infiniment, Il Sanabout. Nous arrêtons la séance ce soir. En vous donnant rendez-vous le 9 février, on recevra une autre historienne, donc Delphine Diaz, qui nous parlera de l'asile en France au 19e siècle. Voilà. Merci. Ceux qui doivent...